cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 février 2002 à Saint-Jean-d'Or.
Alors, une question. On en est au dernier moment de cette analyse que nous faisons sur la personne. Les liens, ou exactement le rôle positif et négatif, c'est le cas de le dire, du corps par rapport à la personne. Notre personne humaine ne peut pas se forger sans un amour pour le corps. Amour à l'égard du plus petit. Avec tous les dangers que ça représente. Parce qu'on peut dire le plus petit, parce qu'il est le plus petit, c'est lui qu'on doit suivre. Il y a comme ça des personnes qui suivent tous les instincts de leur corps. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai mal dormi, on ne peut rien faire. Au contraire, la violence du corps et la vengeance du corps, on me traite toujours comme un pauvre âne. Porter des tas de choses, alors il va se venger. On voit très bien, il y a une espèce de lutte interne quand on est un peu lucide de l'âme et du corps, de l'intelligence et du corps. Cette intelligence qui veut toujours aller plus loin sans s'occuper du pauvre corps qui porte tous les fardeaux, qui a des mal à l'estomac, mal à la tête, mal aux yeux, et tout le temps malade. Toutes les maladies viennent du corps. Parce que les maladies purement d'esprit, il y en a aussi. Alors, une question. Y a-t-il une recherche de la vérité corporelle? C'est-à-dire, étant donné le fait que ma personne implique une unité de l'âme et du corps, comment le corps de la personne est-il assumé dans sa finalité spirituelle, sa recherche de vérité, d'amour et de Dieu? Et par le corps, c'est tout l'univers physique. Hein, parce que l'univers physique est mon milieu, pas le milieu de mon âme. C'est le milieu de mon corps. Et tout l'univers physique est pour mon corps. Et mon corps est le sommet du monde physique. Dans le monde physique, rien n'est plus parfait que mon corps. C'est vraiment la finalité du monde physique. Il est pour mon corps. Et mon corps est pour mon âme. Et mon âme est pour la recherche de la vérité et l'amour. C'est bien de voir ces différents paliers, parce que ces paliers peuvent très bien faire grève, c'est à la mode, hein, la grève. Alors le corps peut faire grève. Et quand il fait grève, il est têtu. Et pendant le carême, ou au point de vue spirituel, on demande beaucoup au corps. Et le carême ne doit pas se passer que dans le corps. Il y a un carême pour l'âme spirituelle, surtout. Mais l'avantage du carême corporel, la vérité corporelle, c'est que ça se voit. Tandis que le carême, au niveau spirituel, il ne se voit pas. Mais il y a un carême. Le carême est pour les deux. Tout l'aspect liturgique, c'est les deux. Parce qu'une liturgie purement corporelle, c'est insipide. Vous voyez ce que c'est, une liturgie purement corporelle. C'est impeccable. Ils sont tous en uniforme et parfaitement merveilleux. Ils s'inclinent en même temps. Ils se relèvent en même temps. Ils se bougent en même temps. Liturgie corporelle. On voit des professeurs de gymnastique. Ils sont pour une liturgie corporelle. Et ils font ça avec beaucoup de soin. Si vous ne vous penchez pas au bon moment, coup de fusil, ça vous va. Il faut voir, c'est extrême. Pour voir que. Il y a un culte du corps aujourd'hui. Il y a un culte du corps. Interrogez ceux qui font la course en vélo, le Tour de France. C'est extraordinaire. La cèse de ces gens. J'en connaissais un qui me dit son ascèse réelle. Pas qu'il pèse trop lourd, parce que c'est plus difficile à traîner. Donc, il faut faire attention. Et ça, tout pour gagner le prix. C'est vraiment ce que dit saint Paul. On fait des efforts énormes, merveilleux, pour obtenir un laurier, pour obtenir un prix, et pour c'est très curieux parce que ça se voit, n'est-ce pas ? Le corps, ça se voit. Mon âme, ça se voit pas. Alors, mon corps, je vois les progrès. Des progrès ascétiques. C'est du reste facile à comprendre. Hein. Au début du carême, c'est pas commode de passer d'un régime à l'autre. Hein. Mais on s'y fait. On peut augmenter la 16 ou on peut l'arrêter en jugeant que pas trop hein, parce qu'il faut tenir jusqu'au bout parce que ça arrive quelquefois on tient très bien les 3 premières semaines et puis 4e dimanche vite la finalité. Alors la finalité à ce moment-là n'est plus uniquement intentionnelle. La finalité est l'intentionnel peut très bien se réaliser dans le réel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on peut avoir corporellement la fête de Pâques avant. C'est l'intentionnel corporel. Alors là, on voit bien ce que c'est. C'est l'avantage du corps. Hein. C'est que l'intentionnel ne suffit pas. Pour le corps, on est réaliste. Et ça, il y quand même, on est quelquefois même trop. Et être idéaliste pour son corps, c'est aussi très mauvais. Parce que c'est rester l'intentionnel mathématique qui fait que les petits déjeuners mathématiques sont très mesurés. Et on vous recommande de prendre tant de pain. C'est comme ça du reste dans le temps. J'ai connu ce carême-là, moi. On pesait le pain. Vous avez eu le droit à tant de grammes. Alors, j'avais à côté de moi quelqu'un qui a un corps imposant, très imposant. Vous voyez, ils avaient la même quantité de pain, la même quantité. Ils avaient une faim terrible. Tandis que ceux qui avaient un corps plus léger, plus petit, moins grand, mais bon. Et ça, c'est un carême mathématique. Alors, on fait le poids. Et c'est contraire à ce que nous faisons, philosophie du corps. Vous comprenez bien? Avec tout le monde, la même chose. Et ça arrive constamment, ça. Les médicaments, pour les uns, la quantité qu'on donne, c'est très bien. Pour d'autres, ça ne signifie rien. Et tout l'art médical, c'est justement d'avoir le sens du corps du patient. Et il est différent avec l'atavisme. La philosophie du corps, c'est d'essayer de comprendre la place exacte du corps dans ma personne. Alors je réponds d'abord à la question. Y a-t-il une recherche de vérité corporelle? Oui. Il y a une recherche de vérité corporelle. Le corps doit être disposé à l'égard de l'âme. Je n'ai pas de vérité du corps pour le corps. Alors, à ce moment-là, c'est vrai. Il n'y a pas de vérité corporelle. Le corps est essentiellement relatif. Donc, puisqu'il est essentiellement relatif, l'hygiène de quelqu'un qui recherche la vérité philosophique n'est pas la même que celle dont le métier est de conduire les gros camions. C'est pas la même du tout. On comprend. Ou n'est pas la même d'un joueur, un sportif de foot. Tout est ordonné à ça. Vous voyez, donc c'est très cruel. La philosophie du corps est une philosophie en tant qu'on la regarde vis-à-vis du point de vue personnel est toute relative. Mon corps séparé de mon âme n'est plus un corps humain. C'est plus un corps humain. Donc l'étude qu'on fait sur le cadavre n'est pas humaine. Elle peut aider au point de vue morphologique de connaître le corps de l'homme. Mais attention, on traite un mort, un cadavre, c'est pas un corps humain. C'est ça qui est. C'est pour ça que l'Église, pendant longtemps, a interdit d'étudier le cadavre. Elle l'a permis maintenant. parce que c'est vrai, ça permet de découvrir plus profondément certains conditionnements. C'est toujours le conditionnement, mais très facilement, on fait du conditionnement une vérité. Et toutes les erreurs viennent de là. Parce que c'est pas la même chose de regarder le conditionnement d'une chose, c'est-à-dire ce conditionnement est relatif à la finalité et à telle finalité, et si je ne vois pas la finalité, je regarde ce conditionnement pour lui-même, et donc je ne vois que l'aspect matériel. Et faire de l'aspect matériel le tout, c'est erroné. Alors, je reprends. Donc, le corps de l'homme est entièrement finalisé par l'âme. Il est pour l'âme. Et non pas pour lui-même. Le corps humain n'a pas de finalité propre. On lui donne une finalité. Mais enfin, il n'a pas de finalité propre. La santé d'un homme, c'est la santé, pas de son corps, mais de l'homme. C'est l'équilibre, justement, entre le corps et l'âme. S'il y a un déséquilibre entre les deux, ça se ressent. On a trop tiré d'un côté, on n'a pas vu l'autre. Ne pas tenir compte de mon corps, mais c'est une grande faute. C'est un manque de réalisme. Considérer qu'il n'y a que l'âme. Et non, il n'y a pas que l'âme. Le corps joue. Il tient sa place. Mais il ne doit pas tenir la première place. Le corps est une excellente école d'humilité. Puisque il est toujours second. Il n'est jamais premier. Alors il est toujours second. Et toutes les erreurs consistent à prendre le corps comme quelque chose qu'on étudie pour lui-même. On ne peut pas étudier le corps pour lui-même. On l'étudie pour l'âme. Là, vous voyez, hein, un médecin matérialiste, purement matérialiste, il n'y a pas d'âme, le corps. Mais au fond, tous ces jugements sont erronés. Puisque c'est la cause matérielle qui prend tout. Il pourrait être merveilleux dans sa connaissance du corps, le connaître d'une façon très étonnante. Mais le principal du corps, d'être ordonné à l'âme, d'être le conditionnement de mes activités, on ne le voit pas. Donc toute la finalité. On est dans le positivisme pur, on regarde le corps pour lui-même et en lui-même. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. Et si je regarde ma personne humaine, je sais bien que ma personne, elle ne pèse pas 80 kilos, elle ne pèse pas 90, elle ne pèse pas 100. C'est que le conditionnement d'un corps qui pèse 100 kilos soit plus lourd que le conditionnement d'un corps qui pèse 60 kilos, c'est normal, hein ? On s'en aperçoit tout de suite. Et ça a d'immenses conséquences, forcément. C'est le réalisme, celui qui ne verrait pas ça, il manquerait de réalisme. Le réalisme consiste à voir ça. Un petit train traîné et il est particulièrement lourd. où j'ai un petit train à traîner, c'est un petit cheval arabe, ça va très bien. L'autre, c'est un cheval de labour. Il faut prendre ces comparaisons assez brutales pour comprendre. C'est essentiel pour pouvoir durer. Dieu nous demande, parce qu'on a offert sa santé à Dieu, si on est religieux, on a offert son corps à Dieu, ça ne nous appartient plus, mais Dieu nous demande d'en être le maître. Dieu est le maître de mon âme directement, mais pas de mon corps. Ah, tiens. Et ceci, c'est une vision de sagesse. C'est pas la vision première, c'est la vision de sagesse. Quand je vois la personne humaine, je vois que je suis le maître de mon corps. Je suis donc responsable de mon corps. Et mon corps m'a été donné, c'est vrai, je n'ai pas choisi. Mon corps m'a été donné, il m'a été donné à travers tout un atavisme. Mon corps n'a pas été directement créé par Dieu, non. Mon corps dépend de tout un atavisme. De mes grands-parents, de mes parents, de mon éducation. Parce qu'il y a l'atavisme, puis après, la première éducation. La première éducation, on a été conduit. On ne vous a pas demandé votre avis quand vous étiez dans le berceau. Comment que tu veux que je façonne ton corps? Tu veux être un athlète? Passer ta vie à être sportif ou tu veux être un être spirituel et ça joue, un être spirituel commence par le corps. Sûrement, il commence par le corps. Vous voyez, il y a donc tout cet atavisme. Puis après, l'éducation. Bon, l'éducation, je ne suis pas maître. Puis à un moment donné, à quel moment l'éducation paternelle n'est plus déterminante et c'est ma propre personne qui a pris le relais. Alors, selon les peuples, selon les âges, ça diffère. Je vous ai cité cet exemple parce que ça m'a beaucoup frappé. C'était en Israël, quand le peuple juif a repris Jérusalem, ils ont été très attentifs pour la première éducation. Et on a vu que les grands conflits psychologiques, c'était les enfants et les parents, et que les parents, souvent, ne faisaient pas assez attention à l'éducation, n'étaient pas suffisamment instruits. Alors, on a voulu une éducation qui soit en dehors des parents. On l'a certifié, ça. On confiait l'enfant 2 heures par jour aux parents, pas plus. Et c'était des infirmières qualifiées qui éduquaient les petits. Et ça n'a pas continué. 10 ans après, je suis revenu. parce que ça m'intéressait de voir ça de près, à Jérusalem. Et alors, je vis à Kibbutz. C'est un Espagnol qui faisait le... qui était le guide. Alors cet Espagnol a tout visité, tout dit, rien. Puis à la fin, on a dit, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Alors j'ai posé cette question pour demander si on avait changé la question d'éducation. Alors, il m'a répondu en souriant, oui, bonne question, on a changé. On laisse maintenant les enfants aux parents. Alors j'ai dit, mais pourquoi ? Il dit, on a remarqué que ces infirmières, si bonnes, si intelligentes qu'elles soient, n'avaient pas le même contact avec l'enfant que les parents. Autrement dit, l'affectivité ne se développait pas de la même manière. Oui. Et par le fait même, il y avait dans l'évolution et l'éveil de l'intelligence un retard d'un an quand le petit bonhomme arrivait à 7 ans. Alors, comme le peuple d'Israël a un sens très grand de l'intelligence, ça a été une alerte. Ils ont réfléchi là-dessus. Ils ont vu qu'une infirmière, si parfaite qu'elle soit, au point de vue technique, au point de vue connaissance, plus parfaite qu'elle soit qu'une mère de famille, n'éveillait pas de la même façon l'intelligence. Parce que l'amour n'était pas le même. Et c'est très intéressant à remarquer qu'au fond, il faut aimer pour devenir intelligent. Et c'est l'amour à l'égard des parents, du père ou de la mère, qui fait un éveil d'intelligence plus grand que quelqu'un qui n'a pas le même amour. C'est intéressant parce que c'est vraiment ce que Aristote et saint Thomas ont vu, ça. Que l'amour est premier. Vous ne pouvez pas éveiller l'intelligence sans amour. Vous voyez, le danger aujourd'hui, c'est de vouloir éveiller l'intelligence sans l'amour. Puisque, en voulant éduquer d'une façon purement mathématique, on fait ça. Les mathématiques peuvent se développer. Le point de départ des mathématiques, il faut aimer. Il faut aimer les mathématiques pour aimer le professeur de mathématiques et faire des progrès. Le climat dans lequel on éduque est capital. Je ne sais pas quel pourcentage, ce serait intéressant. Mais cette expérience-là m'a beaucoup intéressé parce que j'ai trouvé ça très étonnant et très juste. Du reste, ce guide espagnol, juif, me disait ça avec beaucoup d'intelligence et voyait très bien que j'étais entièrement consentant. Alors, il m'a ajouté, à 14 ans, les jalousies de l'enfant du garçon à l'égard du père, de la petite fille à l'égard de la mère, sont très fortes. Alors on reprend les enfants à 14 ans et on les confie à des infirmières. Alors je l'ai quitté en disant « je reviens dans 10 ans ». Alors il a souri. Parce que bon, c'est très vrai, c'est l'éveil d'une intelligence, d'un amour plus développé et le point de départ d'une jalousie. La jalousie se fait à l'intérieur de l'amour et vient corrompre l'amour, arrêter l'amour. Toute jalousie arrête l'amour. Parce que c'est l'intelligence qui passe avant. La jalousie du petit garçon à l'égard du père, la petite fille à l'égard de la mère, est plus facile à corriger dans la famille qu'en dehors. C'est pour ça que je disais, je reviendrai dans 10 ans. Voir si de fait on a fait cette remarque. Il faut se corriger. Il y a le péché originel. Alors, il faut le dire. Il y a le péché originel. Donc il y a fatalement cette lutte interne dans l'amour. Et la première lutte de l'amour, c'est la jalousie. C'est vrai, c'est la Bible. Qui tu appelles jalousie, jalousie fraternelle. C'est vieux. Alors pour que Cain ne tue plus Abel, on sépare Cain et Abel de leurs parents. On croit qu'il n'y aura plus la lutte. Il y a une autre forme de jalousie qui sera peut-être beaucoup plus terrible et qui viendra plus tard. Parce que un refoulement n'éduque pas. Or, il y a à éduquer intérieurement. Et ça, c'est tout le corps, c'est toute la réalité du corps. L'amour est très lié à la passion. Et la passion naît à partir du corps, de l'âme du corps. Il y a toujours un élément passionnel, un élément corporel. Et la passion du concupiscible et la passion de l'irascible naît à partir du développement du corps. Votre premier moment de la jalousie à l'intérieur de l'amour, vous avez été jaloux parce que vous aimez et vous avez introduit dans l'amour quelque chose qui n'est pas l'amour. L'amour pur, on aime. On ne regarde pas l'autre. On aime. On ne regarde que celui qu'on aime. Ça, c'est l'amour tout pur. Introduire dans l'amour un regard de l'autre, je dois passer avant. Mon père, parce qu'il est plus âgé que moi, a le droit à ceci, cela. Moi, j'ai le même droit. Et la petite fille, le même raisonnement. Or, c'est par le fait même quelque chose qui arrête l'amour. Le développement de l'amour est arrêté très souvent dans notre vie. Par le point de vue de l'intelligence. L'intelligence qui veut dominer, qui veut passer avant. Tout ça, ça fait partie de l'éducation du corps. Je vous donne ces exemples-là pour vous montrer simplement l'importance dans notre vie de l'éveil du concupiscible, de l'irascible. La place du corps dans notre vie, la place de la passion dans notre psychisme, dans toute notre éducation. Et le philosophe ne sait pas qu'il est le péché originel. Il ne le sait pas. Ça, c'est la foi qui est un petit péché originel. Donc, philosophiquement, je constate qu'il y a des batailles, très vite, et des batailles familiales, donc très passionnelles. Les passions qui naissent à l'intérieur du développement des familles sont ordinairement très violentes. C'est très curieux. Et est-ce que on peut remarquer ça? C'est les passions du concupiscible, les passions d'irascibles, elles naissent et elles apparaissent à l'intérieur de notre vie d'enfant, d'être les uns à côté des autres. Alors, quand la famille est nombreuse, les parents sont plus loin. C'est sûr. Quand il n'y a qu'un enfant, vous comprenez, le pauvre, il est toujours avec ses parents. Tandis que quand il y en a 5-6 avant, ça fait un tampon. Et c'est très vrai, ça. Ce tampon fait qu'avec ses frères et ses sœurs, on n'a pas les mêmes rapports. Les passions se développent beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement entre frères et sœurs. Des passions assez violentes. Normalement, dans des frères et des sœurs, on se dispute toujours. Et c'est bon. On se dispute toujours parce que c'est extérieur. Tandis qu'avec les parents, ça ne se développe pas. On n'ose pas. Donc, c'est les premiers refoulements. Et les premiers refoulements, quand ils sont profonds, parce que le père était toujours là, ou la menace du père, c'est très rare, ce refoulement. Il fait que ça se développe. Tandis que dans une famille nombreuse, il n'y a pas de refoulement. Ça se dit. On dit tout à son frère. Je vais te casser ta gueule. Hein? C'est évident. Il ne pouvait pas dire ça à votre père. Hein? Vous diriez ça à votre père. Hein? Ah, ça irait bien. Tandis qu'avec le frère, oh, très bien, il donne un coup de pied, puis c'est tout. Ça sera commode, mais c'est sorti. Et c'est beau qu'on soit sorti. C'est même très utile qu'on soit sorti. C'est très curieux de voir la place du corps. C'est la place de la naissance des passions. Elles ne viennent pas de mon âme. Le concupiscible ne vient pas de mon âme. J'ai un petit animal, il y a du concupiscible. Hein. Regardez le petit chien, regardez le petit chat, concupiscible. Regardez les gros animaux, le lion, le concupiscible du lion. C'est quelque chose. Au Rwanda, avant la fameuse guerre du Rwanda, on avait les animaux étaient réfugiés dans un coin, mais sans fermeture, ouverts à tout le monde. Et vu comme ça, moi, prêchant au Rwanda, on m'a dit, si vous voulez assister au repas de noces des lions, venez. Alors on allait dans une petite voiture, petite deux chevaux. On était tout prêts. Hein. Et surtout, n'ayez pas la tentation de caresser le lion, parce qu'il pourrait répondre à la caresse. bien le concupiscible de l'animal. Et l'irascible, quand on a pris le morceau, on l'a donné au roi lion. C'est la lionne qui partage. Et le lion reçoit en dernier lieu tous les petits lignes, les petits enfants, on lui repart. Et le lion, en dernier lieu, le gros morceau. Instinctivement, c'est extraordinaire de voir ça, c'est que c'est très ordonné. Et ça se passe toujours comme ça, quand on voit comme ça, on est... Les passions sont animales, elles viennent de notre corps, du développement de notre corps. Alors l'intelligence et l'âme humaine vient transformer cela, c'est sûr. La vertu vient de l'âme, elle ne vient pas du corps. Et il faut essayer de comprendre cela jusque dans l'éveil des vertus, dans l'éveil des passions. Voir la place du corps. Et voyez bien qu'elle est différente pour chaque individu. Elle est différente selon les différentes cultures même. Il y a des cultures qui sont très attentives à l'éveil du concupiscible, d'autres à l'éveil de l'irascible. Il y a des familles qui sont très éveillées au concupiscible et qui quelquefois s'amusent, et c'est pas bien, s'amusent à voir le concupiscible chez une petite enfant. On ne doit pas s'amuser avec les passions, parce que les passions c'est la nature, et si on s'amuse là, alors on n'a plus la même liberté. L'enfance commence à se cacher. Oui, voilà. Le concupiscible, il faut de confiture. On fait tout ce qu'on peut pour le rendre en dehors du regard des parents. Oui, les refoulements se font de façon extraordinaire. Mais quand c'est dans les familles, ça se passe mieux. Parce que c'est plus fermé. Et l'éducation des passions, du concupiscible et l'irascible, doit se faire dans la famille. Quand le concupiscible et l'irascible se fait au niveau de l'État, c'est terrible. Parce qu'il n'y a pas du tout cette surveillance paternelle et maternelle. Il y a une éducation qui est tout de suite, type gendarme. Le gendarme n'est pas paternel. Le gendarme n'est pas maternel. Il fait son métier. Au nom de la justice, demander à un gendarme d'être miséricordieux. C'est très curieux de voir la réaction du gendarme devant la miséricorde. Il en rit. C'est la justice. Et la justice par rapport aux passions, c'est terrible. Parce que c'est l'intelligence dans la justice qui domine et qui ne fait pas attention au sujet. La justice se veut objective. Dans un domaine, quand il s'agit des passions, qui est essentiellement subjectif. Donc on voit de l'extérieur. Vous ne pouvez pas éduquer quelqu'un et vous-même au nom de la justice. Vous éduquer au nom de la justice, ce serait le stoïcisme. Ce serait la justice qu'il faut élever là. Vous voyez, l'éducation chrétienne, la miséricorde qui apparaît dans l'Évangile. Et la miséricorde domine. Or, au fond, on a beaucoup de peine à maintenir ça. Et aujourd'hui, très souvent, la vie d'un médical passe avant la miséricorde. C'est pas un avis médical, c'est un avis plutôt psychologique. C'est pas la même chose. Le médecin est beaucoup plus objectif, parce que c'est le corps qui ne répond pas. Tandis que la psychologie, c'est l'âme enfouie dans le corps qui répond. Et qui répond avec les passions. Il faut donc bien comprendre, et ça c'est très très important, de comprendre combien notre corps est intégré dans notre personne. Je dis bien intégré. Il est présent dans ton personne. Il joue un rôle capital vis-à-vis de toute notre vie humaine. Il joue un rôle capital. Second, lorsque l'intelligence s'est éveillée, mais le corps est toujours premier. L'enfant, vous ne demanderez pas à un enfant de raisonner, non. Quand il a faim, il le dit. Quand il a soif, il le dit. Quand il a mal, il le dit. Il est spontané. Vous n'avez pas refoulé tout ça. Et dans la première éducation, c'est très, très utile de laisser l'enfant pouvoir exprimer ce qu'il a. Parce que, autrement, ça le refoule. Et c'est la même chose dans la vie religieuse, le point de départ. Il ne faut pas tout refouler. Un novice qui aurait tellement peur de son père maître, il refoulerait tout. Il serait parfait. Il fait des vœux, étant parfait. Alors ça ressort avec une force. C'est très curieux de voir comment le corps cache. Là, y a tout le refoulement s'est caché. Combien le corps cache, et il veut cacher l'âme. Et combien le corps, immédiatement, s'adapte à la mentalité commune. C'est par le corps qu'on s'adapte. Et quand on est infirme dans son corps et qu'on ne doit pas s'adapter entièrement, on souffre. Et par le fait même que notre corps s'adapte constamment, il est source de refoulement. Les sources d'arrêt, d'empêchement. Alors que si on n'a pas cette frousse de l'autorité, et que l'autorité est là pour coopérer, l'autorité est faite pour coopérer, pour apprendre la vertu, apprendre à grandir, apprendre à aimer. Alors les refoulements sont beaucoup moins forts. Et dans une société où justement l'amour risque de manquer terriblement, on aura la loi. Tout sera dicté et tout doit être conforme à la loi. Alors, la loi fait peur. Et on refoule tout ce qui est manquement à la loi. Et on le refoule le plus possible. Et quand on vit de refoulement, on vit dans le mensonge. Pour soi, forcément. Et on fera de plus en plus des une civilisation qui extérieurement sera polie, sera bien, mais intérieurement, il n'y aura plus de vertu. Parce que c'est la peur. C'est Saint Augustin qui dit ça admirablement. Quand il se demande si un supérieur doit chercher à ce qu'on ait plus peur de lui que l'amour. Il dit, l'amour, la miséricorde doit passer avant. Dans toute éducation. Et c'est la grande, je dirais, c'est la grande liberté qu'apporte le christianisme. C'est que la miséricorde passe avant. Autrement, on fait des civilisations de refoulement. D'où, quand le refoulement est arrivé à l'extrême, on a des crimes invraisemblables, des actions complètement commandées par un refoulement ancestral. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire du corps. Alors, c'est faux, il n'y a pas de mémoire du corps au sens absolu, mais il y a un refoulement qui vient qu'on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu dire, on a encaissé. Alors, sur le moment même, on encaisse, mais le lendemain, c'est le refoulement. Il faut voir d'où naît les refoulements. Pas seulement de les constater. Et c'est ça la grosse difficulté de l'éducation d'une personne, c'est de respecter pleinement la place du corps dans le développement d'une personne.